ciel ouvert. Temps fort des Quinconces Lespal, présenté par Robin Hulin et Charlie Pless.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes en direct des Quinconces pour notre première escalpade et émission spéciale de la saison. C'est un programme présenté en partenariat avec les Quinconces et l'Espal. Et nous sommes ensemble pendant une heure à l'occasion du Temps Fort à ciel ouvert, un événement qui a lieu tout au long du mois de septembre jusqu'au 28. Et à mes côtés, pendant cette heure d'émission, j'ai la chance d'être avec Charlie Pless qui rejoint la rédaction. Bonjour Charlie.
Bonjour Robin.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien.
Alors qu'est-ce que le Temps Fort à ciel ouvert ? Depuis 5 éditions maintenant, cet événement propose des spectacles en plein air, ouverts et gratuits au public. C'est une performance participative, comme on pourrait dire, avec au programme des spectacles, de la danse, des déambulations et autres créations proposées au public. Aujourd'hui, nous mettrons en avant le spectacle We Can Be Heroes avec le groupe En Fonction, qui le présente à 16h puis à 18h sur la place du Jet d'eau au Mans. C'est donc une création qui mêle la musique et la danse bien à sa manière, vous verrez. Dans la deuxième partie de cette émission, nous serons avec le groupe Déjà, en compagnie de Sébastien Lazenec et Antoine Meunier, qui présentent le spectacle Ce qui nous, ce sera au mois de novembre à découvrir à l'Espal. On en parle avec eux tout à l'heure. Et enfin, nouvelle saison, nouveau spectacle, nouvelle programmation. Cette saison, comme tous les ans, les Quinconces et l'Espal proposent beaucoup de nouveautés, de spectacles et de temps forts. Alors on accueillera Virginie Bocard, la directrice des Quinconces et l'Espal, pour parler de l'agenda et de la saison à venir. Ce sera en dernière partie d'émission. Voilà, on avance dans cette émission et on se tourne vers le premier plateau du jour. On démarre notre premier plateau. Donc sur notre antenne, on a Arnaud Pirot qui est metteur en scène du spectacle We Can Be Heroes. Bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Aurélie Kerville, Christelle Pilon, Géraldine Moen et Louise Fauchard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc We Can Be Heroes est une création portée par le groupe En Fonction, comme on l'a dit. Elle est présentée tout à l'heure à 16h, puis à 18h sur la place du Jet d'eau au Mans. Vous parlez de performance participative, d'individuation collective. Arnaud Pirot, quelle est l'intention de cette création, si on peut présenter cela aux gens qui nous écoutent ?
Alors, je vais tenter d'expliquer ce qu'est le concept d'individuation collective, sans paraître trop savant ou un peu snob. L'individuation collective, c'est comment on arrive à être absolument soi-même, en étant absolument ensemble. Ça fait beaucoup d'absolu, mais c'est important de parler d'absolu parce que c'est une croyance, cette individuation collective. Et voilà, c'est cette tentative, cette pièce raconte cette tentative de vivre ensemble, mais de manière assez pleine, quoi.
Et d'ailleurs, cette notion de collectif, on le retrouve d'ailleurs dans le nom de votre groupe, puisque il y a le mot groupe en fonction. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce collectif et quels sont ses domaines d'exploration artistique ?
Alors, le groupe En Fonction n'est pas un collectif, figurez-vous.
D'accord.
Mais le terme de groupe me paraissait à l'époque, hein, c'était en 2003, beaucoup plus approprié qu'une compagnie. Pour être une compagnie, il faut être des compagnons. Et je ne sais pas si on est encore... en 2020 des compagnons, c'est bien de vouloir le devenir, mais en tout cas, le groupe me semblait plus approprié, et puis j'avais le sentiment et l'envie aussi d'être plus proche d'un groupe de rock que d'une compagnie de théâtre.
D'accord. Alors on va rentrer un peu plus en détail dans le spectacle We Can Be Heroes. C'est ce qu'on appelle un spectacle in situ. Est-ce que on peut en décrire le dispositif formel ?
Alors formellement, c'est assez simple, c'est un carré dessiné au sol par du gaffe noir, du ruban adhésif noir. Et à l'intérieur, il y a autant de pieds de micro que de participantes, que de héros et d'héroïnes. Et puis, il y a un système son tout autour de ce carré. Le public donc peut venir entre le carré et ce système son. 7 chansons vont être chantées.
Ok, donc c'est alors chanter... Mais en fait, c'est du playback, c'est ça ?
Ah, je sais pas.
Ah, d'accord. On sait pas. Dans quelle discipline on est ? On est plutôt sur du théâtre, de la danse, du chant. Est-ce que vous voulez nous en parler ?
Vous qui participez. Parce que vous, en tant que participante qui avez participé à cette création, on peut décrire ça un petit peu.
C'est un savant mélange de théâtre, de chant, même si on porte pas la voix. Voilà, il y a aussi beaucoup de... Oui. Oui, enfin, ce ne sera pas un scoop, je pense. Il y a aussi un grand travail avec le corps, puisqu'on n'est pas statique. Mais je ne vais pas trop en dire, il ne faut pas qu'on dévoile tout. Donc je pense que voilà, ce serait ma réponse. Un savant mélange, théâtre, de chant et de danse.
Aurélie Kerville, Christelle Pilon, vous êtes de cet avis, si on peut avoir un petit peu votre retour d'expérience, votre regard sur ce We Can Be Heroes.
Un grand mouvement.
D'accord. En une ligne, c'est très bien résumé.
Je suis d'accord. Et puis, c'est aussi, soit parmi d'autres, enfin, moi, je retiens vraiment la philosophie. On a fait aussi beaucoup de philosophie, finalement, pendant notre préparation. Et c'est vrai que ça n'existerait pas seul. Voilà, ça n'aurait aucune allure, en fait. Et donc, c'est ce mouvement collectif, vraiment, que je retiens, moi.
Alors, c'est intéressant que vous souleviez cet aspect philosophique, parce qu'on voit des concepts qui surgissent dans la description de votre travail, notamment celui d'irréversibilité et d'imprévisibilité qui sont au centre du projet. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en dire plus là-dessus, peut-être ? Peut-être pas.
irréversibilité, ça sort d'où, ça ?
Du dossier artistique.
C'est moi qui ai écrit ça, ok.
On a eu du mal à le prononcer à l'antenne, en plus.
Ouais. Irréversibilité.
Sinon, on passe à la question suivante, si jamais.
Peut-être, non ?
On a irréversibilité et imprévisibilité.
Okay. Imprévisibilité, ouais,
c'est
peut-être.
Joli, hein. C'est des jolis mots.
Mais peut-être que...
Ouais, c'est des super mots pour des dossiers.
Ce sont des super mots qui inspirent beaucoup.
Bon, en tout cas, peut-être à nos auditeurs à l'antenne, mais...
En tout cas, il y a une autre notion qui revient, évidemment, surtout quand on parle de chant, c'est la respiration, le souffle, qui est un enjeu important de cette création. Alors concrètement, qu'est-ce qui est exploré, en fait, à travers ce motif ?
La puissance de nos poumons, en fait. C'est-à-dire que moi, je ne pensais pas pouvoir avoir autant d'air dans mes poumons. Okay. Et en fait, si. Le souffle, là, c'est une vraie découverte.
Ok.
Moi, j'ai une question pour Louise. Louise, donc, tu as 12 ans. Tu as donc participé à cette création. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que ça t'a apporté ? Ce qu'il y avait d'intéressant, déjà, à se joindre à ce projet We Can Be Heroes ?
Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de faire du playback.
Du playback ?
Avec ma maman.
Qu'est-ce que ça apporte, le playback ? On a l'impression de subitement très très bien chanter. Oui. C'est difficile quand même.
Oui, c'est très compliqué. Il faut essayer de bien chanter, de faire comme si on chantait, mais on ne chante pas.
Et c'est pas un peu frustrant d'ailleurs d'apprendre des chansons par cœur comme ça et de finalement de faire semblant, entre guillemets, de les chanter ?
Si, c'est un peu frustrant.
Mais alors qu'est-ce qui est plaisant du coup dans le playback ?
Ce qui est plaisant, c'est qu'on peut danser, c'est qu'on peut bouger, c'est tout.
Il y a possibilité de jouer beaucoup en fait avec la chanson que tu incarnes, quoi, c'est ça ?
Oui.
Et alors, qu'est-ce qui joue individuellement pour ces participants, du coup, malgré l'inscription dans un collectif ? En fait, c'est cette notion de collectif et en même temps d'individualité qui se mélange. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ?
Parce que d'un côté, comme l'a dit Charlie, et comme vous le disiez en début d'entretien, le collectif est très important, mais ce qu'on essaye de mettre en lumière, c'est donc chaque personne qui participe, qui apporte son identité, sa présence.
Et bah justement, comme dans l'espace public, ça fonctionne si tout le monde est là vraiment. Si on joue à faire semblant réellement et pas être là, ça marche pas. À partir du moment où on est soi-même et on y va, bah ça marche. Sauf que là, on est plein, ça marche et on y va. Et du coup, on envoie plein de choses à tout le monde autour et on en prend plein pour nous aussi.
Anne Opiro, c'est ce que vous essayez de mettre en avant dans ce spectacle, justement. La notion de collectif, ça, on en parle, mais justement de faire en sorte que chaque participant soit vraiment acteur à part entière de ce spectacle, mais de lui-même surtout, et qu'il arrive à se retrouver, se trouver peut-être un peu, trouver son identité.
Oui, en effet. C'est le principe de l'individuation, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à s'émanciper ? Donc individuellement, nous on est là, groupe en fonction, on est là pour créer les dispositifs qui vont permettre cette émancipation, ou pas, hein. Après c'est chacune fait sa vie dans le processus de création, mais c'est un enjeu, et ce qui m'intéresse moi dans le fait de collectiviser tout ça, c'est que justement on crée des rapports brutaux plateaux, ce que j'appelle des rapports brutaux plateaux, c'est-à-dire des là, il y a 28 personnes, 28 individus, donc il y a 28 rapports bruts au plateau.
Qu'est-ce que vous appelez concrètement rapport brut au plateau ?
Un état de présence ici et là, ici et maintenant. Plutôt ici et maintenant, parce qu'ici et là, c'est un peu pareil. Ici et maintenant. Il n'y a pas de préparation. Ce qui est intéressant dans cette pièce, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'anime encore dans cette pièce, c'est le... l'ambiguïté entre le playback, hein, je crois qu'on l'a déjà dit, C'est plus un secret, le playback, c'est-à-dire le faire semblant total, et la réalité, la vérité de chaque émotion ressentie, partagée par chaque individu. Et c'est l'agencement de ces émotions-là qui fait collectif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire comme Björk ou comme Bowie, tiens, pour être avec.
Oui, du coup, ça implique forcément l'improvisation, oui. En fait, et s'adapter aux conditions dans le moment.
Oui. Oui, ça va avec le in situ, vous en parliez tout à l'heure. Quand on pense à des pièces in situ, on pense évidemment à l'espace public, mais on pense finalement à des mises en scène, à des dispositifs, à des conventions, des conventions spectaculaires, on va dire, ou théâtrales ou chorégraphiques. Mais on pense rarement à l'in situ de l'individu lui-même. Et c'est ce qui me plaît à travailler dans ce spectacle, c'est quoi le in situ de quelqu'un. Voilà.
Parce qu'il y a un travail quand même, pardon, excuse-moi, mais il y a des workshops avant la représentation,
oui,
sur,
oui,
place. Alors, en quoi ils consistent, ces workshops, du coup? Elle est où, la préparation?
Alors, une grosse préparation physique, on peut le dire, où là, on redécouvre notre corps, en fait, hein, parce que la respiration, on en parlait tout à l'heure, et là, on a vraiment compris à quel point la respiration, elle était au service de notre corps, du réveil de notre corps, de l'aide à ce que notre corps puisse performer. Voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de dire pour commencer. Les filles, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose.
Oui, après le workshop, ça a été aussi, encore une fois, se mettre au contact des personnes qui étaient autour de nous, par cette prise de conscience qu'on n'était pas seul. Et puis, mais qu'est-ce qu'on partage après, une fois qu'on a pris conscience qu'on n'est pas seul? Et là, c'est comment on va aller être capable de contacter des émotions, recevoir celles des autres, partager ses émotions, enfin, c'était aussi ça, le travail.
Et la place pour l'improvisation dans tout ça, elle est assez présente. Et qu'est-ce qu'elle apporte personnellement? Parce que c'est toujours un exercice quand on fait la création artistique, l'improvisation, qu'on soit sur scène ou dans d'autres milieux.
C'est pas vraiment de l'improvisation, c'est être. Et quand on est, on prend ce qui arrive. Et c'est comment on va faire avec ça. Ou pas, ou décider de prendre ou pas prendre. Il n'y a pas une décision d'aller dans l'improvisation. Il y a vivre, être, et s'autoriser à être avec les autres. C'est-à-dire que pendant tout le week-end, on a peut-être fait les choses d'une certaine manière. Hier, on les a peut-être faites d'une autre manière. Avant-hier aussi. Aujourd'hui, ça sera encore autre chose. On ne sait pas. Mais on s'autorise à le faire, en fait.
Et moi, pardon, je le relie beaucoup à de la liberté, en fait. On essaie d'acquérir une forme de liberté totale dans ce qu'on peut projeter.
Tu es d'accord, Louise, dans la préparation, par exemple, est-ce que c'était quelque chose de physique, de découvrir ça? Il y a une part d'impro, on a parlé du playback, mais est-ce que la danse, trouver son corps, son identité, tout ça, est-ce que là aussi c'était quelque chose de fatigant, mais qui a aussi beaucoup apporté, hein, qui t'a apporté plein de choses?
Oui.
Qu'est-ce qu'il y avait de plus intéressant là-dedans?
C'est de redécouvrir notre corps.
Et la danse, ça permet ça, selon toi? La danse, le mouvement, ses créations?
Oui, je le pense.
Tu préfères le chant peut-être à la danse, si on devait choisir entre les deux, le chant ou le playback?
J'aime bien les deux.
Et vous, si on se tourne vers vous, le playback, c'est quelque chose qui... c'est pas toujours mon délire, mais il y en a certains qui adorent ça, ou alors on est vraiment...
Disons que quand on n'est pas capable d'être une vraie rockstar, ouais. Ça permet quand même de toucher un petit peu du doigt ce rêve fou. Voilà.
Ouais, c'est ça, puis je crois qu'enfin, en tout cas, je pense qu'on est nombreux à avoir déjà fait ça, devant notre glace ou je sais pas n'importe où, quoi, à cela, voilà, s'imaginer être en train de chanter notre chanson préférée, là c'est bon, quoi, enfin c'est...
Et est-ce que vous avez d'autres activités dans le théâtre, dans l'interprétation, dans le jeu,
d'autres projets même?
Je fais du théâtre.
Oui, donc vous avez quand même un rapport à ça aussi, même individuellement dans votre vie, vous avez un rapport au jeu particulier?
Oui, il y a des liens vraiment là qui ont pu être faits, mais c'était encore différent malgré tout. Des vrais ponts, bien sûr.
Arnaud Pirot, est-ce que vous avez d'autres projets en parallèle pour la suite dans cette thématique ou des créations qui seraient très différentes?
C'est une pièce que j'ai faite, qui a commencé en 2008. Donc qui dure encore. Depuis 2008, il y a eu d'autres tentatives, d'autres pièces, d'autres travaux. Toutes les pièces que je travaille ne sont pas forcément implicatives. Je travaille aussi avec des interprètes dont c'est le métier, sachant qu'on est quand même sur un niveau d'exigence qui est le même, hein, qui est absolument le même, qui est exactement le même. Tous les travaux que j'ai pu leur transmettre le week-end dernier Et ces deux dernières soirées sont à peu près les mêmes que ceux que je fais avec des interprètes dont c'est le travail. Donc voilà, il n'y a pas de distinction possible et nécessaire à le fait d'être à l'amatora et au professionnalisme. Hein, je sais pas, à part citer Godard, mais.
Il va être l'heure de conclure cet entretien. Merci beaucoup à vous cinq d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Donc le spectacle We Can Be Heroes, c'est tout à l'heure sur la place du Jet d'eau à 16h et à 18h au Mans. Merci encore. Nous, on va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. On sera avec le groupe du spectacle Ce qui nous. A tout de suite sur notre antenne. De retour dans cette nouvelle partie d'émission, nous sommes toujours en direct des Quinconces à l'occasion du temps fort à ciel ouvert. C'est une émission en partenariat avec les Quinconces et l'Espal. Et je suis toujours avec Charlie Pless.
Tout à fait, je suis toujours là.
Toujours avec Robin Hulin aussi. Il est l'heure d'accueillir un nouvel invité. Nous sommes donc avec un représentant du groupe déjà, Sébastien Lazenec. Bonjour.
Bonjour.
Donc les 21 et 22 novembre, vous présentez à l'Espal le spectacle Ce qui nous, N-O-U-S, et le verbe nouer, nous. C'est une mise à nu joyeuse et cinglante du couple sur le divan, comme on pourrait dire. Comme souvent, vous abordez un sujet propre à la vie sociale, aux interactions humaines, la famille, l'intimité. Et là, c'est la thématique du couple que vous mettez en lumière. Vous avez monté déjà plusieurs projets, plusieurs spectacles sur les liens familiaux, mon grand-oncle, ami, cow-boy ou indien. Est-ce que ce qui nous s'inscrit dans le prolongement de ce fil thématique, c'est ce sujet que vous abordez souvent ?
Oui, on peut dire ça, ouais. Depuis une dizaine d'années, dans nos écritures, ouais, on questionne un peu nos relations de vivre ensemble. Donc dans Amis, c'était sur l'amitié. Mon grand-oncle, c'était sur ça parlait de la famille, puisque c'était sur les secrets de famille. Cowboy ou indien, c'est sur nos liens de fratrie, famille aussi. Et donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut questionner aussi qui soit quelque chose d'universel, qui touche beaucoup de monde et qui parle de vivre ensemble, de liens, et le lien de couple, il s'est imposé comme thème évident, on va dire.
Et alors pourquoi continuer à explorer ces thèmes qui a priori semblent avoir été épuisés par la culture sous toutes ses formes, la littérature, le cinéma, etc.
Bah, c'est des... c'est des termes, c'est des notions qui sont hyper familières. Donc c'est pour ça que ça parle à tout le monde. Et du coup, c'est tellement familier que bah, je pense qu'il faut justement pas s'endormir et sans cesse réinterroger ça, quoi. Et évidemment, tout le monde en a parlé, ça a été exploré partout, ouais. Mais il y a toujours des choses à dire. Et puis les époques évoluent, on change de façon de voir les choses, c'est pas les mêmes prismes, donc toujours quelque chose à...
Notamment sur la vision du couple, effectivement.
Évidemment, ouais.
Et donc c'est une manière d'explorer des thématiques comme ça qui parlent à tout le monde, de viser différents publics, finalement, de tenter de viser différents publics, différentes générations, différents milieux.
Ouais, parce que à tout âge, on peut être concerné par ça, parce que avant d'être en couple, il y a le couple de nos parents. Donc oui, et puis on essaie souvent d'avoir plusieurs niveaux de lecture aussi. Donc on n'écrit pas, on met pas en scène des spectacles qui sont a priori pour le jeune public, mais qui sont en tout cas la plupart du temps visibles par du tout public.
Alors de quelle manière cette thématique est abordée sur scène, si on peut se pencher un petit peu sur ce spectacle? Ouais. Quelle est un peu l'histoire qu'on raconte face au public? Il y a toujours beaucoup d'humour en plus dans vos créations.
Ouais, on utilise pas mal l'humour comme vecteur pour parler des choses. Pas comme un aboutissement en soi. Les gens sont pas forcément là pour rire à tout prix, mais on aime utiliser l'humour comme et le rire comme d'autres émotions. Quelle est l'histoire? Il y a pas d'histoire. Il y a pas d'histoire. C'est
alors formellement, ça se présente comment dans ce cas?
C'est on va dire. Concrètement, de manière grossière, c'est un enchaînement de tableaux.
Okay.
Donc c'est une construction qui est non narrative, du coup plutôt poétique. Et on assiste à différentes scènes, dans différents lieux, à différentes époques, où on croise évidemment des couples, puisque ça parle de ça, mais aussi d'autres personnes, d'autres situations, mais ça parle toujours de couple. Par exemple, je pense là à une scène en particulier où c'est deux sœurs qui parlent du couple de leurs parents.
Ok.
Donc, mais on, c'est pas l'histoire d'un couple comme ça pourrait être le cas dans un spectacle de boulevard où
on évoque le couple de voilà. Différentes manières.
Ouais, c'est ça. Ouais. On a aussi à un moment une conférence qui parle du couple de manière par le prisme de la biologie, de la neuroscience, de la philosophie pour essayer de décortiquer quoi.
Justement, je voulais aborder ces points un peu plus conceptuels peut-être avant de passer sur vraiment la conception de la pièce. Il y a plusieurs points sur lesquels je voulais vous interroger. Déjà, le groupe déjà se revendique du théâtre du réel. Alors, c'est-à-dire
Parce qu'on aime avoir un jeu un peu naturaliste sur le plateau, un jeu de cinéma.
Ok.
Donc on essaie de s'éloigner de quelque chose de théâtral. Déjà on utilise des micros, alors pas les micros qu'on a là à la radio avec une grosse bonnette, mais on a des petits DPA qui sont collés sur la joue, quasiment invisibles, mais ce qui nous permet de parler presque comme dans la vie, avec ce soutien audio. Donc on a un jeu comme ça du réel, et puis les situations qu'on pose sur le plateau, ce sont des situations dans lesquelles tout le monde peut être confronté, même si on y met aussi de la fantasmagorie, de la poésie, mais on part de quelque chose de réel.
Et alors dans votre dossier, vous faites une distinction sémantique intéressante, vous préférez le terme de compagnonnage à celui de couple, pourquoi ça?
Ah oui, parce que au début on s'est dit, ouais, si on nous questionne, c'est quoi votre prochaine création? On fait une création sur le couple. Ce qui vient en tête, c'est l'univers du théâtre de boulevard, c'est ce qu'on s'est dit. Et c'est pour ça qu'on s'est dit peut-être qu'il vaudrait mieux parler de compagnonnage, le fait de vivre avec quelqu'un. On parle de ça, le fait de vivre avec quelqu'un. Parce qu'on insiste là-dessus, parce qu'on peut s'aimer et ne pas vivre ensemble. Et nous, on parle vraiment des gens qui vivent ensemble. C'est pas la même, il se passe pas la même chose, en fait.
Et alors, vous l'avez dit tout à l'heure, pour mener votre réflexion, vous allez chercher du côté de différents domaines de la connaissance et de la culture, la philo, la biologie, l'anthropologie, la sociologie, la littérature, etc. Il y a presque une recherche d'exhaustivité, en fait. Pourquoi ça?
Ouais, en tout cas, il y a une scène qui est traitée de cette manière dans le spectacle, où on parle vraiment, dans cette fameuse conférence, on parle vraiment du coup, par ces différents prismes, par les sciences et les arts. Et on a toujours, avec Antoine Meunier, qui est mon collègue co-auteur, on a toujours tendance à écrire des spectacles qui sont un peu des thèses au départ, d'être exhaustifs. Ouais. En tout cas, au début, sur les premières phases d'écriture. Après, on dégraisse, on enlève. Il y a un regard extérieur sur l'écriture et sur la mise en scène, sur le jeu, qui est là aussi pour pointer du doigt des choses qui ne sont pas forcément utiles. Et puis, Et puis après, de toute façon, on sait pertinemment qu'il faut laisser beaucoup d'espace pour l'imaginaire du spectateur.
Mmh. Est-ce que c'est un spectacle qui met aussi en avant, ou en tout cas c'est ce que vous avez pu observer dans votre travail de réflexion, de préparation, que la notion du couple, de l'amour, de l'intimité a évolué au fil des années, notre rapport à ça aujourd'hui dans notre société, dans certaines parties de notre société peut-être, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que c'est aussi ce pourquoi vous travaillez beaucoup sur ce sujet, cette thématique?
Ouais, carrément. Mais il y a pas mal de scènes où on parle du patriarcat. Du coup, oui. Voilà, on est complètement dans ce sujet-là. Notamment la scène dont je parlais tout à l'heure, où les deux sœurs parlent du couple de leurs parents. Ça parle d'évolution dans les mœurs, de la façon d'aborder le couple et de se comporter entre hommes et entre femmes.
Ouais. Donc il y a une certaine dimension politique, mais est-ce qu'il y a aussi une dimension qui se rapprocherait plutôt du fantastique? Vous aviez parlé de l'imagination du spectateur.
Du fantastique, dans notre scénographie, il y a un côté un peu fantastique, mais qui vient justement contrecarrer avec le côté réaliste du jeu et des
scènes. Au niveau des décors et des costumes, peut-être?
Les costumes, non, ce sont...
Alors qu'est-ce qui dans la scénographie pourrait se rapprocher de ça du coup?
Bah, on a voulu une scénographie où qui se passe un peu nulle part. Il y a des éléments qu'on trouve chez tout le monde, un canapé, une table basse, des fauteuils, une armoire, mais là on les met dans un environnement de végétation, okay. Comme si la nature s'était invitée à l'intérieur de la maison, avait pris le lierre, enfin tout. Comme si les choses étaient tellement installées depuis longtemps que le lierre a pris corps sur le canapé et sur l'armoire. Ou alors, on peut aussi se dire que ces meubles et ce mobilier sont placés dehors, qui amènent du décalage, de la poésie, pour ne pas être sur quelque chose de trop terre-à-terre, quoi.
Est-ce que finalement le jeu de mise en scène, le jeu des comédiens sur scène est particulièrement, comme on pourrait dire, millimétré, ou là aussi vous laissez place à l'improvisation, à l'interaction avec le public aussi, à l'imprévu?
Non, c'est millimétré. Ouais, c'est très arrêté. Pour arriver à ce résultat final, on est passé par des phases d'improvisation et de liberté, mais là, on est sur quelque chose d'assez précis.
Alors justement, au niveau de la conception, comment ça s'est fait en fait? Comment vous arrivez au résultat final?
Il y a de nombreuses étapes. Déjà, on a commencé par se documenter sur le. Cette histoire de couple, même si nous on a pas mal de notions, mais on s'est documenté en regardant des films, en lisant des bouquins, voilà ce qu'on peut trouver sur internet, des débats, etc. Et on a eu toute une semaine avec les Quinconces et les Spales où on était en recueil de témoignages. On a rencontré beaucoup de gens de tous âges, de tous horizons, de toute orientation sexuelle qui sont venus nous apporter leur vision là-dessus. Ça nous a permis de nous nourrir, de valider ou pas des intuitions qu'on avait, et puis de voir un peu toutes les émotions que ça pouvait dégager, et puis les aspirer pour peut-être les rejeter de manière inconsciente sur le plateau. En parallèle de tout ça, donc on était en écriture, plutôt à la table pour, on va dire, les trois quarts des scènes, ou deux tiers des scènes, et puis on a eu... Un tiers des scènes qu'on a, où on écrit un peu en gros ce qui se passe, mais il n'y a pas forcément de dialogue de posé, okay. Puisque ces scènes-là, elles sont travaillées en écriture de plateau. Donc les comédiens savent qui ils jouent, où ils sont et quel est l'enjeu et quelques rendez-vous, mais ils sont libres d'improviser au niveau de texte et comportement un peu. Et ça nous permet d'aboutir à des scènes très, très vivantes et très... très proche de la réalité, ces scènes-là. Et après, elles sont remises à l'écrit pour les figer, mais voilà, on travaille de cette manière-là. On a travaillé que avec l'équipe de comédiennes et de comédiens dans un premier temps, et puis il y a depuis quelques mois, on a un regard extérieur, qui est Philippe Nicole des 26 000 couverts, qui est basé à Dijon. Qui vient apporter un regard extérieur en direction d'acteur un petit peu, puis beaucoup en mise en scène pour amener un souffle nouveau et puis pour avoir quelqu'un en face, quoi. Voilà.
Et par rapport au public, finalement, lorsque vous explorez un peu cette thématique du couple, des liens familiaux, quelle réaction, quel retour vous avez, vous observez, et peut-être aussi pour ce spectacle à venir, qu'est-ce que vous cherchez à susciter?
On cherche à susciter des émotions, déjà. C'est vraiment notre objectif dans chaque création, c'est le parcours émotionnel du spectateur qui nous intéresse au-delà d'une histoire qu'on pourrait raconter. Et puis, le summum, ça serait qu'au moins dans quelques scènes, les gens puissent se dire, mais ils sont venus écrire ça en regardant par le trou de notre serrure ou quoi. Voilà. Ou alors que les gens y reconnaissent des amis ou des voisins. Ou...
Et alors, il y a quand même aussi une émotion qu'on a abordée au tout début de l'interview, ouais. C'est le rire, l'humour qui prend une place assez particulière, je crois, parce que ça touche à des thèmes assez sensibles, peut-être parfois, peut-être violents, ouais. Brutaux, voire absurdes. Comment il apparaît, l'humour, alors de quel humour on parle?
Il y a plein de niveaux d'humour. Il y a de l'humour sur le texte, de l'humour par rapport à des choix musicaux, de musique utilisée. Après, c'est des méthodes techniques de silence qui font que ça provoque un rire, de questions posées entre personnages avec pas forcément de réponse.
C'est un rire joyeux ou c'est plutôt un rire jaune?
Ah non, mais il y a plusieurs, on passe par toutes sortes de rires.
D'accord. Parce que vous travaillez toutes les émotions.
Ouais, c'est ça. Ouais. Évidemment qu'il y a du rire jaune. Du rire joyeux, j'espère qu'on a réussi à en mettre. C'est ce qui est le plus compliqué. Mais en tout cas, c'était la volonté.
Ok.
Et puis, on aime placer les moments de rire après des moments qui sont très durs et très profonds pour venir vraiment faire un ascenseur violent pour le spectateur au niveau émotionnel.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous réalisez beaucoup de spectacles, mais que vous produisez, que vous représentez dans d'autres lieux que des théâtres, en entreprise, en plein air, etc. Qu'est-ce que ça change, selon vous, dans le rapport qu'on a avec le public, la proximité et la transmission du message, peut-être, d'aller dans d'autres lieux plus originaux, parfois?
Ça change des choses à pas mal de niveaux. Déjà, aller faire du théâtre à l'endroit où se trouvent les gens et ne pas faire venir les gens dans un théâtre, bon, déjà, il y a quelque chose d'assez puissant là-dedans, même au niveau politique, on va dire, quoi. Sinon, qu'est-ce que ça change? Mais dans un théâtre, en tout cas, quand on est sur le plateau, il ne peut rien se passer du tout, normalement. Hein, on ne voit pas les spectateurs et puis on déroule la chose sans problème. Alors que sur des lieux où on est au grand jour, au milieu d'une classe, au milieu d'une place publique, il peut se passer moult choses et il faut être sur le qui-vive, il faut pouvoir jouer avec ça, improviser avec ça, donc c'est pas du tout le même rapport. Ouais.
Et alors, est-ce que enfin vous avez des projets pour la suite?
On partira, ouais, sur une prochaine création qui est pas encore en route, mais et qui va pas arriver tout de suite. Donc là-dessus, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire. On continue à tourner nos spectacles qui ont été créés précédemment, qui sont toujours en tournée.
Les quatre sont toujours en tournée?
Ouais.
Ok.
Ouais, tout à fait. Les plus anciens ont moins de dates, mais...
On peut les voir où, par exemple, les prochaines dates?
Alors là...
Après, il y a le site internet,
ouais,
hein,
c'est
il y a le
ça,
groupe
ouais,
déjà,
ouais,
qui
ouais,
est sur le site internet, très clair, ouais, très bien fait.
Si, il y a tous les jours notre spectacle sur le harcèlement scolaire, où on fait le procès du harcèlement scolaire. Donc
vous étiez venu présenter, ouais, sur Radio Alpha, ouais.
Et on a sorti une version plateau ici d'ailleurs au Petit Quinconce il y a à peu près un an, et cette version plateau on la joue le 18 octobre à Arnage.
Okay.
Ça, j'ai cette date là pour ce qui est des dates en Sarthe, il y a cette date là
ok, ça marche.
Sébastien Lazenac, est-ce qu'il y a une thématique dans les relations humaines, les interactions sociales que vous n'avez encore jamais explorées et que vous souhaiteriez explorer? On a parlé du couple, des relations fraternelles, du harcèlement, etc. L'amour, la famille, il y a beaucoup de thématiques. Est-ce qu'il y a un sujet encore qui n'a pas encore été mis à l'écriture, selon vous?
Ouais, on a dans nos idées probables, enfin en tout cas mis à l'étude, la relation avec nos morts. Ouais.
Un sujet puissant, mais assez vaste, finalement.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On a évoqué aussi la relation à nous-mêmes, en fait.
Il y a une part de thérapie, finalement, quand on se plonge dans le travail d'écriture, on parle de soi, ça résonne en nous.
Certainement. C'est pas l'objectif, pas l'objectif au départ, mais certainement.
C'est ce que le théâtre, en général, apporte aussi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais. Eh bien, Sébastien Lazenec, merci beaucoup d'avoir répondu
merci
à notre invitation.
Merci.
Donc, rendez-vous les 21 et 22 novembre pour découvrir votre spectacle, Ce qui nous noue. Ce sera à l'Espal. On peut aller sur le site internet des Quinconces et l'Espal pour avoir toutes les informations là-dessus. Pour votre actualité, il y a le site internet du groupe déjà. Nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission. À propos d'actualité, on parlera justement de l'actualité des Quinconces et l'Espal avec cette nouvelle saison 2024-2025 qui démarre. On sera avec Virginie Bocard, sa directrice. Avant ça, une pause musicale et à tout de suite.
Le gentil facteur, c'est son vélo moteur. T'as envie d'une moto, t'as envie de faire du quad, t'as envie de faire du feu, un feu de camp. J'aime la grande girouette, la bouteille d'eau de planquette. Du cheval à tout balai, une maison, une grande télé. Du vélo à Saint-Malo, du kayak à Saint-Briac.
Du vélo à Saint-Malo, du kayak à Saint-Briac. Du vélo à Saint-Briac.
J'aime les vaches bretonnes, elles sont bilingues, elles sont mignonnes. T'as envie d'un pigeonnier, on aura deux pigeons, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour faire pousser le blé, on va mettre des graines. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. T'as envie de canard, d'une canne colvert. Elle veut nous bouffer, bien sûr, mais c'est pas comestible.
De retour dans cette dernière partie d'émission, je suis toujours avec Charlie Pless pour une émission spéciale en partenariat avec les Quinconces et l'Espal à l'occasion du temps fort à ciel ouvert. Dans cette dernière partie d'émission, nous avons la chance d'être avec Virginie Bocard, directrice des Quinconces et l'Espal. Bonjour.
Bonjour.
Donc on va revenir avec vous sur la saison 2024-2025 avec beaucoup de spectacles, de nouveautés, de résidences, de temps forts. Peut-être d'abord se pencher sur l'actualité, ce qui se passe en ce moment et dans les jours qui arrivent au Quinconces et l'Espal. Donc le temps fort à ciel ouvert a démarré début septembre, il se termine le 28. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu, rappeler aux gens qui nous écoutent ce que c'est ce temps fort qui se passe majoritairement en plein air et qui a lieu en début de saison tous les ans ?
C'est un rendez-vous pour découvrir des créations d'artistes qui pensent leur spectacle en dehors des théâtres, en dehors des boîtes noires et donc pour l'extérieur. Et donc c'est cette volonté-là de promouvoir ces créations qui se pensent pour dehors et ces différentes formes qui sont proposées. Qui propose aussi un rapport différent, puisque c'est pas la même chose quand on est dans un jardin avec l'œuvre de Carmen, par exemple, que d'aller à l'opéra. Enfin, ça nous change aussi dans notre rapport de spectatrice ou de spectateur. Et puis aussi, ça nous permet, l'autre enjeu de rencontrer des personnes qui viennent pas forcément dans les théâtres et qui ont, grâce à ces sept propositions, accès au projet des Quinconces et de l'Espal. Et peut-être ça leur donne envie de venir chez nous pour les rendez-vous qui sont dans les théâtres.
Alors, il y a eu plusieurs spectacles dans le cadre de ce temps fort. La Caravane de l'écoute, Mouton Noir, Mot et le ruban rouge, et aujourd'hui, ce 24 septembre, c'est Weekend Be Heroes, dont on a discuté en première partie d'émission. À ciel ouvert se clôturera le 28 septembre après deux derniers spectacles, Les yeux de Lusanouch et Out. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux spectacles ?
Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que Out, c'est Noémie Boutin, C'est une violoncelliste qui est associée au Quinconce et à l'Espal. Et elle a décidé de créer un concert qui se joue uniquement en extérieur parce qu'elle vient vraiment du conservatoire, des musiques savantes, des musiques de répertoire. Et elle s'est aussi posé la question de démocratiser ces musiques dites savantes ou ces musiques de création pour élargir aussi les personnes qu'elle rencontrait en tant que voilà quand elle était interprète sur des plateaux, et puis avec aussi la volonté à Out d'aller donc toucher d'autres personnes, de démocratiser aussi son répertoire, mais aussi en se posant la question des personnes qui sont un peu à la marge, qui sont exclues, donc à Out, qui sont un peu comme ça au bord. Au bord des choses, au bord de la vie, donc des sans-abri tout particulièrement, des femmes qui sont isolées. Et donc c'est un concert, mais avec un récit qui est raconté tout autour de ce concert, avec un quatuor de musiciens et de musiciennes, un chanteur également. Donc et la compagnie est venue beaucoup travailler ici au Mans, elle a fait des maraudes artistiques, elle a rencontré le chant associatif, les Restos du Cœur, l'association Tarmac, le Secours Populaire, donc sont aussi beaucoup nourris des rencontres qui se sont faites sur le terrain. Donc ça, c'est Out. Et puis, donc c'est une création. Et puis, vous me parliez des yeux de Louzanouche. Donc là, on va aller au lycée Bellevue. Et c'est une œuvre immersive. C'est des projections numériques. C'est comme un cinéma de plein air qui est proposé.
On a un casque. Un peu dans l'esprit de la nuit des chimères, du coup ?
Ça peut, ouais, absolument, ça peut être un référentiel comme ça. Et donc, on est dans les yeux d'une petite fille qui s'appelle Louzanouche et elle nous raconte l'histoire de sa famille qui a été exilée, sa famille arménienne, et donc qui a quitté la guerre, et donc comment cette famille, sa famille, a traversé les frontières. Donc, c'est le récit du peuple arménien dans les yeux d'une petite fille. Donc, il parle aussi de l'atrocité de la guerre. Et puis, qui parle aussi de comment elle a, voilà, quelle petite fille elle est là, elle est aujourd'hui. Et donc, on est content d'aller au lycée de Bellevue parce que ça va nous permettre, ben, d'être, voilà, de toucher aussi la communauté éducative de Bellevue et puis d'aller dans un lycée pour aller voir ce spectacle-là.
Alors, à ciel ouvert, c'est le premier de quatre temps forts qui auront lieu tout au cours de l'année. Je propose qu'on présente rapidement ces temps forts avant d'aborder les spectacles à venir très prochainement au Quinconce. Alors, les prochains temps forts, ce sera donc les Inspirantes du 9 au 31 janvier, Enjeu du 26 février au 21 mars et Vivante du 13 mai au 8 juin. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces différents temps forts de l'année ?
Oui, je peux vous parler de ces différents temps forts, mais plus largement, ces différents temps forts, déjà par les noms et de ce que ça raconte. C'est pour moi, faire une programmation, c'est de faire le récit d'une histoire, en fait, de différentes histoires et de comment on traverse à travers une cinquantaine de spectacles, trois expositions, qu'est-ce qu'on a envie de raconter aux gens tout au long de l'année. Donc c'est une ligne éditoriale, c'est un parti pris, c'est un engagement, c'est un sens politique en fait, dans le sens noble du terme de ce que ça raconte. Donc ce que ça raconte, c'est bien évidemment tous les enjeux de notre monde qui est en mouvement. Donc vivante, c'est une dimension totalement écologique, mais dans une dimension écologie relationnelle en fait, du rapport à la vie, à la mort, mais aussi du rapport à l'environnement, à la nature. Donc ça, c'est vivante. Enjeu, bien, c'est à un moment donné un focus, mais qui est là aussi tout au long de la saison sur la jeunesse en fait. Donc avec différents rendez-vous bien identifiés pour les adolescents, avec la maison, elle grouille de jeunes tout au long de la journée avec des ateliers, des rencontres, des spectacles qui se jouent dans les établissements scolaires. Donc c'est un focus jeunesse à un moment donné, mais la programmation, elle est intergénérationnelle. Il y a plus de 20 spectacles pour les familles tout au long de l'année. Et puis les Inspirantes, bien comme son nom l'indique, c'est un temps fort très engagées, très féministes, qui mettent en valeur des parcours de femmes singuliers, des parcours de femmes qui ouvrent des voies. Et vous voyez bien dans l'actualité aujourd'hui avec le procès Pellicot-Mazan, c'est Gisèle Pellicot, elle ouvre plus que des voix, c'est-à-dire qu'elle les questions du viol et du viol conjugal, et donc cette femme là, son ce qu'elle fait, les choix qu'elle prend, le fait que le procès soit ouvert, enfin là c'est une femme absolument inspirante. Donc c'est ça, les inspirantes, c'est un temps fort féministe engagé. Donc voilà, la programmation, en tout cas, au-delà des temps forts, elle raconte tout ça, elle rencontre un fort engagement de notre part. Mais je pense au spectacle Gisèle Halimi qui a lieu en novembre, c'est comment rendre hommage à Gisèle Halimi avec ce spectacle-là qui Gisèle Halimi, une farouche liberté.
Mais donc c'est politique dans le sens où ça aborde des thématiques qui sont très présentes dans l'actualité aujourd'hui. Alors d'autres spectacles auront lieu bien sûr en dehors de ces temps forts. Je propose de nous attarder sur quelques-uns d'entre eux qui sont à venir très prochainement. Par exemple, Cher Cheval de Jacques Gomelin, le 3 et 5 octobre. Est-ce que vous pouvez nous en dire?
Oui, alors c'est dans le cadre du festival Faites Lire, puisque le projet est très connecté à la vie de à la ville du Mans, en fait, hein, de la cité. Donc on fait beaucoup de partenariats avec des associations. Puis là, on est en résonance avec cet événement littéraire. Et donc là, on a invité Jacques Gomelin à faire une création. Donc une lecture mise en espace autour du livre qu'il a écrit. Il a écrit une lettre au facteur cheval, une lettre imaginaire, puisqu'il a interprété le facteur cheval au cinéma.
Est-ce qu'on peut rappeler brièvement qui est le facteur cheval?
Le facteur cheval, c'est un facteur qui a construit un palais absolument incroyable dans la Drôme, en fait, tout seul, avec des pierres qu'il est allé chercher. Donc c'est quelqu'un qui est identifié dans le mouvement de l'art brut, en fait. C'est une histoire absolument incroyable. Et donc Jacques Gomelin va être seul au plateau et va nous lire une lettre qu'il a écrite au facteur cheval. Donc pour nous, c'est pouvoir à nouveau inviter Jacques Gomelin, qui est venu régulièrement ici sur les plateaux, et puis rendre hommage aussi à son écriture, parce qu'il écrit, c'est pas le premier livre qu'il écrit, et puis ça s'inscrit dans le cadre de l'événement Faites Lire.
Alors on change d'ambiance, puisqu'on parlait justement de la création artistique féminine, de la parole féminine il y a quelques instants. Les 8 et 9 octobre, la metteuse en scène Yngvi Laspeli, qui est islandaise, présente Dracula Lucy's Dream. Alors elle était sur notre antenne il y a quelques jours pour en parler. Elle était sur notre antenne, alors elle était au nord de la Laponie au téléphone, mais elle est venue présenter cette relecture du roman de Bram Stoker. Pascal, en toile de fond, elle présente... Me Too, elle présente une société patriarcale. C'est assez intéressant ce qu'elle a essayé d'explorer avec Dracula Lucy's Dream.
Oui, absolument. C'est pourquoi je vous disais que, en fait, les temps forts, ils ont des rebonds aussi en dehors des temps forts. Le fait de commencer la saison avec Carmen, c'est aussi un Carmen écrit, revu au post Me Too. Donc, oui, ce Dracula, il est absolument... incroyable, majestueux, puisque c'est, comme elle a dû vous le raconter, c'est du théâtre de marionnettes, avec des marionnettes géantes, sans parole.
Oui.
Tout à l'heure, Arnaud Pirot, il parlait d'émancipation, les amatrices parlaient de liberté. Ce qui est important dans les œuvres qui sont présentées, c'est pouvoir peut-être permettre, par la relation à l'œuvre, de trouver des espaces de liberté, de faire des pas de côté, d'avoir des prises de conscience sur... certaines normes, essayer de s'en sortir de certains emprisonnements peut-être. Donc c'est un Dracula avec un vrai choc esthétique.
D'accord.
Et effectivement c'est très engagé. Et donc j'espère que vous serez nombreux à découvrir ce spectacle.
Alors, mais la programmation des Quinconces Pâles, ce n'est pas seulement du théâtre, c'est aussi de la musique, de la danse. Par exemple, en octobre, on aura un concert des Égarés, le 11 octobre. Et ensuite, We Wear Our Wheels With Pride and Slap Your Streets With Color, le 15
Magnifique
octobre.
Votre
très long
Charlie.
Titre en anglais, très compliqué à prononcer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, ce que je peux vous dire, en fait, sur... La danse, par exemple, on a des rendez-vous avec des chorégraphes internationaux cette saison, beaucoup, puisque là, c'est Robin Orlin, qui est chorégraphe sud-africaine. Et donc, dans ce spectacle-là, elle parle de l'apartheid, en fait, et de comment des hommes qui... transportaient des blancs à un moment donné par leur chant. On réussit un peu à se libérer de, voilà, de la domination qui était posée sur eux. Donc, il y a également le spectacle avec Anna Terzat Kersmaker qu'on a découvert à Avignon, qui est quand même un événement. Exit Above. Et puis vous parliez du concert des Égarés en octobre. On travaille aussi beaucoup avec d'autres structures, je pense à la SMAC Superforma avec laquelle on collabore aussi, avec aussi le Mans fait son le plongeoir. C'est important pour nous de pas être complètement d'être en lien avec les autres.
Et alors, quels sont les autres spectacles à ne pas manquer prochainement? On a le Pays Innocent, Antichambre, les 2DS, Vals avec W, lesquels vous nous invitez très fortement à aller voir?
Alors, c'est vrai que c'est difficile parce que je signe cette programmation. Donc, pour moi, tous les spectacles sont indispensables. Peut-être juste pour vous dire qu'une chose qui a été forte pour nous dans cette rentrée à ciel ouvert, pour y revenir, c'est Mo et le ruban rouge. 10 000 personnes dans les rues. Un peu moins que la parade des 24 heures, mais c'est quand même assez fort de réunir autant de personnes dans les rues.
Donc pour c'était un des spectacles dans le cadre d'un ciel ouvert.
Ouais, c'est un spectacle manifeste, c'est un spectacle politique. Il raconte l'histoire de Mo qui est dans un pays en guerre, un petit garçon de 8 ans et qui va devoir quitter son pays et trouver l'hospitalité dans un autre pays. Donc c'est...
Ça se présentait comment, ce spectacle?
C'était une marionnette de plus de 8 mètres de haut et en déambulation. Et de se dire qu'il y avait 10 000 personnes début septembre qui étaient là et qui déambulaient dans les rues et qui suivaient pratiquement la migration et le voyage de Mo et de mettre un peu en mouvement, pas toute la ville, mais 10% de la ville. À un moment donné, c'était pour nous extrêmement stimulant. Ça a fait sens, en fait. Et c'est comment... le théâtre est connecté avec la vie de la cité. Donc sur d'autres rendez-vous, je dirais qu'à la fin de saison, dans Vivant Vivante, on va vous inviter à venir dans les boîtes changées pour un spectacle qui s'appelle Croire aux fauves. Peut-être qu'on
adapté
en reparlera.
Adapté du livre de Nastasia Martine.
Absolument. Donc ça aussi, c'est aussi on va avoir peut-être un peu peur. C'est à 22h quand il fait nuit noire. Et puis, je pense à un partenaire important, c'est l'Institut National du Musical, puisque vous l'avez peut-être vu, la programmation. Il y a un peu plus de cabaret et de music hall cette année. J'ai rencontré Marion Louveau, la directrice de l'INM, avec cette école incroyable qui forme des jeunes gens au cabaret. Une discipline peu présente dans les institutions. En tout cas, ça se développe de plus en plus, mais il était important pour nous de travailler avec eux, de monter un projet avec eux. Et donc, il y aura Music Hall Colette en janvier, en ouverture des inspirantes. Et donc, Colette, c'est quand même une femme très irrévérencieuse, iconoclaste. Elle a eu des funérailles nationales. Elle est rentrée à l'Académie Goncourt et puis elle avait une vie multiple, mariée plein de fois, bisexuelle, extrêmement libre. Et donc...
Et écrivaine.
Il y a tous les rendez-vous sont importants. Après, c'est vraiment en fonction de la sensibilité de chacun et chacune. Et ce qui est important pour moi, c'est de se dire qu'on peut avoir à la fois Kerry James et qui va rassembler des personnes qui ne seront pas forcément les mêmes pour Gisèle Halimi en termes de génération, en termes de référence. Mais c'est de ma responsabilité. Je dirige un théâtre public et de ma responsabilité, c'est d'être... que ce lieu soit accessible à tous et à toutes.
Parce que les Quinconces et les Spales proposent aussi de la pratique, entre guillemets. Il y a des ateliers pour les jeunes, avec la tribu pour les 15-18 ans. Quoi consistent ces ateliers?
Oui, absolument. Il y a la mini-tribu pour les petits à partir de 9 ans et puis la tribu pour les plus grands. Bah, tout simplement, c'est que les jeunes soient aussi présents dans les théâtres. Ça se passe aussi beaucoup à l'Espal. Tous les mercredis après-midi, il y a des ateliers de dessin, d'initiation aux échecs avec des associations partenaires, avec la ludothèque. Au-dessus, le carré rouge qui devient barrageux. Il y a le Café des Langues actuellement. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que on est là pour nos missions et défendre la création, défendre les artistes, mais aussi un travail d'éducation artistique et culturelle. Donc on est aussi un lieu où les enfants peuvent venir pour rencontrer des artistes, pratiquer.
L'objectif, c'est aussi d'aller s'adresser à des publics dans des quartiers politiques de la ville, par exemple, les quartiers environnants à l'Espal, où on propose des activités culturelles à des moments de l'année, l'été aussi peut-être, pour des jeunes qui n'ont pas toujours accès aussi à la culture, à la différence de d'autres milieux.
Oui, mais en fait, on est à l'Espal. Mmh. Enfin, l'Espal, c'est notre maison, donc on a un projet qui est connecté avec le quartier, comme ici. Donc, effectivement, il y a un rapport de la cité éducative qui indique que les jeunes, les enfants qui sont dans des quartiers très, très populaires n'ont pas accès à des activités culturelles non plus sportives, et puis ouais. Aux soins, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la culture. Donc, en tout cas, on propose des activités. On réfléchit beaucoup aussi à l'accompagnement des enfants le soir, en dehors des représentations qui sont faites en matinée avec les enseignants qui les emmènent, comment on peut les accompagner, comment ils peuvent venir. On met en place des tickets d'or. Les enfants qui viennent au spectacle l'après-midi ou le matin, ils reviennent avec un ticket d'or, comme dans Charlie et la chocolaterie, et peuvent avoir à nouveau accès au spectacle. Donc, on a cette responsabilité, effectivement, d'éducation populaire. Et ce qui est important pour nous, je vois le directeur de la MJC qui est là, on travaille avec la MJC Ronceret et puis également la MJC qui est à côté grâce à ce partenariat avec Radio Alpa. La question de l'animation et d'être un théâtre de proximité est important pour nous. Voilà, donc l'éducation populaire, ça fait partie aussi de notre ADN.
Alors on est rattrapé par le temps parce que le temps passe très très vite. Merci beaucoup Virginie Bocard d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Je tiens à remercier l'ensemble de nos invités d'avoir pris de leur temps pour venir sur notre antenne. Un grand merci au Quinconce et l'Espal, particulièrement à Virginie Bocard pour sa confiance, à Emmanuel Travers pour son apport dans la préparation de cette émission. Charlie Pless, merci.
Merci Robert.
On se retrouve tous les deux ce mardi de 14h à 17h pour Campus en Fête en direct de Le Mans Université.
Tout à fait.
Et puis merci à Romain Alinan pour la réalisation technique de cette émission. Évidemment, c'est un programme que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée sur notre antenne.